לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir. Yael Bornstein, au technique avec moi, Léonide Isakov. Vous êtes sur Cannes en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2024. C'est le 181e jour de la guerre contre le Hamas. Je vous rappelle que ce flash qui ne dure que 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM. On vous invite à nous retrouver ce soir à partir de 21h15 sur le 101.3 FM ainsi que sur la page de Cannes en français avec votre rendez-vous Facebook Live pour le journal complet. Le chef de la division du renseignement, le général de division Aaron Khalifa, s'est entretenu aujourd'hui avec des chefs de terrain de la division de recherche et a déclaré, je cite, « Il n'est pas sûr que le pire soit derrière nous. Des jours complexes sont à prévoir. » Dans le cadre des menaces de vengeance iranienne après l'assassinat de Damas, le secrétariat du gouvernement a annoncé la tenue d'une réunion du cabinet politique et de sécurité au bureau du Premier ministre, une réunion qui a commencé à 20h, le Premier ministre Netanyahou y a déclaré que depuis des années, l'Iran travaille contre Israël directement et par l'intermédiaire de ses émissaires et qu'Israël travaille donc contre eux, à la fois défensivement et offensivement. Nous saurons comment nous protéger et nous agirons selon le principe simple selon lequel quiconque nous fait du mal ou envisage de nous faire du mal, eh bien nous lui ferons nous aussi du mal. Le centre médical Ikhilov a annoncé le décès de Lidor Levy, 34 ans, qui avait été grièvement blessé lors de l'attaque au couteau au centre commercial Friendly à Ganyavne. En début de semaine, Levy, ingénieur logiciel de profession, a laissé derrière lui une femme enceinte et un bébé de 6 mois, des parents, un frère et une sœur. La cybersécurité nationale d'Israël a étendu aujourd'hui le brouillage GPS dans tout le pays, notamment dans le centre, en prévision d'éventuelles attaques de représailles menées par l'Iran après l'élimination imputée à Israël de plusieurs responsables militaires de Téhéran en Syrie. Le brouillage déjà effectif depuis quasiment le début de la guerre dans le nord du pays a pour but de parasiter les drones et les missiles guidés par GPS envoyés sur Israël. Le brouillage qui n'est pas permanent et peut varier au cours de la journée et de la position géographique a été mis en place dès le début de semaine dans la région d'Elat et de la Arava, située le long de la frontière avec la Jordanie, entre la ville de la pointe du sud et la mer Morte. Puis ce matin, comme je vous le disais, dans la région du centre et de Tel Aviv, les applications de navigation telles que Waze, Moovit ou même Google Maps ne permettent donc plus de se géolocaliser avec la même efficacité. Et les utilisateurs peuvent se voir détectés à Beyrouth ou même au Caire. Ces mesures qui interviennent après les menaces lancées par le président iranien Ebrahim Raisi, qui a assuré hier à l'issue d'un entretien téléphonique avec le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani que l'attaque attribuée à Israël contre une antenne de l'ambassade de l'Iran à Damas ne resterait pas sans riposte. Ce matin, le guide suprême iranien Ali Khamenei a lui aussi menacé Israël en publiant un tweet en hébreu. Avec l'aide de Dieu, nous amènerons les sionistes à se repentir de leur agression contre le consulat iranien à Damas. Cette année, le jour du Quds, le jour de Jérusalem, sera un cri international contre le régime sioniste usurpateur, a-t-il écrit dans un autre tweet. Certains réservistes israéliens de la défense aérienne notamment ont eux été rappelés en urgence depuis hier. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a précisé dans un communiqué publié ce soir que les forces de Tsahal sont bien déployées dans des formations défensives et offensives et sont préparées à une variété de scénarios. Nous ne devons pas faire preuve de complaisance, mais en même temps, il est important pour moi de souligner qu'il n'y a pour l'heure aucun changement dans les directives du commandement du front intérieur. Hagari a noté que sa seule recommandation était la vigilance et la responsabilité de surveiller si des changements opéraient. Nous avons une protection à plusieurs niveaux et nous avons des avions dans le ciel 24 heures sur 24 et ce depuis très longtemps. Le Shin Bet a contrecarré une infrastructure terroriste qui prévoyait de mener de nombreuses attaques en Israël, notamment une attaque contre le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir. Ces derniers mois, le Shin Bet, l'armée israélienne et la police ont arrêté un grand nombre de suspects dans le sud et en Judée-Samarie. Entre autres choses, ils avaient l'intention de mener une attaque contre des bases de Tsahal et des installations sécurisées. L'aéroport de Ben-Gurion et même le bâtiment du gouvernement à Jérusalem, ils prévoyaient de mener une attaque à Kiryat Arba et dans ce contexte l'intention d'assassiner le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir en se procurant un missile RPG pour mener à bien l'attaque. Ils ont également prévu d'enlever des soldats supplémentaires de Tsahal. Dans le même temps, il a été autorisé à la publication que l'unité centrale de la police de Jérusalem et le Shin Bet ont déjouer des attaques terroristes planifiées, des attaques soutenant l'État islamique à Jérusalem-Est. Deux d'entre eux prévoyaient de préparer des engins explosifs et tirer sur un commissariat de police et de mettre une bombe au stade Teddy à Jérusalem. On vous retrouve à 21h15 aujourd'hui pour la suite du journal complet. Ce soir, nous recevrons le docteur Eric Seton. Merci de nous avoir suivis sur Canon Français au micro. C'était Yael Bornstein. En technique avec moi, Léonid Isakov. Shalom depuis Jérusalem.
Buenas noches para todos. Soy Eddie Junovich informando para Radio Reca en español y esta es la actualización informativa de las 9 de la noche. Amenaza de Irán a Israel. Las evaluaciones de la Fuerza de Defensa de Israel aumentaron respecto a ayer en un contexto de tensiones debido al temor de una venganza de Irán por el asesinato de sus oficiales atribuido a Israel. La Fuerza de Defensa de Israel expresaron que están al tanto del comportamiento público sobre el norte y la posibilidad de acción iraní, pero enfatizan que no hay ninguna nueva amenaza que no sea reconocida por Israel. Misiles tierra-tierra, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados, expresó el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el teniente coronel Daniel Agari, en una conferencia de prensa. Además, Agari comunicó que observaremos las amenazas y las frustramos todo el tiempo. Hemos fortalecido el estado de alerta de las unidades de combate según las necesidades. Hemos fortalecido los sistemas de defensa y tenemos aviones preparados para la defensa y listos para atacar en una variedad de escenarios. Por último, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel también dijo que las directivas del Comando Nacional permanecen sin cambios. No es necesario comprar generadores, almacenar alimentos ni retirar dinero de los cajeros automáticos. Conversación entre Netanyahu y Biden. El primer ministro Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense Biden esta tarde. Nuestra reportera Gilly Cohen señala que la conversación se desarrolló a la sombra de la indignación en Washington por el incidente en el que murieron accidentalmente miembros de la organización humanitaria WSK. Mientras tanto, Netanyahu se reunió hoy con una delegación de miembros republicanos del Congreso en nombre de AIPAC, el lobby pro-israelí en el Congreso. Les agradeció su apoyo y dijo que era necesario ahora más que nunca. Tengo tres mensajes para ustedes, que ganaremos completamente, que la victoria puede acelerarse y que hay un intento de meternos a la fuerza, un Estado palestino que servirá como otro refugio para el terrorismo, dijo Netanyahu. Piratería contra los sistemas de información. Grupo extranjero de piratas informáticos, cuyos anuncios están escritos en árabe, afirman haber pirateado los sistemas de información del sistema de seguridad y haber robado información a gran escala. El grupo filtró documentos a la red, principalmente comunicaciones entre el Ministerio de Defensa y diversas entidades. Nuestro reportero Itay Shikman informó que el grupo pide un rescate de más de 12 millones de shekels en Bitcoin para no publicar toda la información. Hace dos horas que el ministro de Defensa no responde a la noticia. Gabinete de Guerra. A la sombra de las tensiones de seguridad y del temor de una gran escala tras el asesinato de los funcionarios iraníes, se espera que el gabinete político y de seguridad se reúna esta noche a las 8 en punto. El gabinete seguirá discutiendo a votación una propuesta para autorizar al primer ministro y al ministro de Defensa a tomar decisiones sobre este tema sin convocar al gabinete. Familias afligidas. En el Monte Herzl de Jerusalén, los representantes de las familias afligidas se reunieron cerca de las tumbas de sus seres queridos a primera hora de la tarde. En una declaración que emitieron en situ, las familias afligidas pidieron la unificación del pueblo y el fin de las manifestaciones y la división tras los acontecimientos de esta semana. Nuevo armamento para Israel. La administración Biden aprobó recientemente la transferencia a Israel de más de 1,000 bombas que pesan más de 200 kilogramos y además más de 1,000 bombas de pequeño diámetro. Así lo informan los medios de Estados Unidos. La aprobación del traslado de las bombas se produjo el día del incidente en Deir al-Balá, en el que murieron los activistas de la organización humanitaria. Declaraciones de Trump sobre la guerra. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se presenta como candidato para un nuevo mandato, reiteró su llamamiento al fin de la guerra en Gaza. Termínenlo y volvamos a la paz, y dejemos de matar gente. No estoy seguro de que me guste la forma en que Israel lo está haciendo. Israel está perdiendo completamente la guerra de relaciones públicas, sostuvo Trump. Declaraciones de Yair Golan en la convención en el Día de la Democracia en la Universidad Reichman. El mayor general de reserva Yair Golan, que fue subjefe del Estado Mayor, expresó la posibilidad de un ataque directo desde el interior de Irán es muy baja. Según él, se esperan días tensos con la posibilidad de violencia, pero no desembocará en una guerra. Yair Golan agregó que siempre es bueno prepararse para la posibilidad de un ataque directo desde el interior de Irán es muy baja. Sin embargo, la posibilidad de un ataque desde el espacio libanés, sirio o iraquí es mayor. Creo que los iraníes intentarán mostrar lo que le hicieron al comandante de las fuerzas Quds es romper reglas de juego, pero en mi opinión no hay razón para romper las reglas del juego por completo. Hasta aquí la información actualizada del día jueves. Que tengan una noche agradable y tranquila. Shalom desde Jerusalén.
پنج دقیقه معلومات خود میرسانیم و آن وابسته که در دولت من حالا 101 روز جنگ شده ایستاده است. در باره تیرکت که در تشکیلات دولتی اسلامی این روز در روشنگ رانده می بود. اما خواهی بختر اسرائیل و خزمچان پلیسی این گروه را دست کرده به تیرگو گذراندن. اگر آنها دست می رفتن ممکن بود که این روز در روشنگ تیرکت روی می داد. ایران وعده داد که امروز خمس که قصرگری خود را میگرد از سبب که یک چند روز پیش خوی بختر اسرائیل در لیوان در الچیخانه ایران رکت پرونده در اونجا یک جنرال و یک شیش کمدیر را نوت کرد. ایران وعده داد که البته به جوابش را به اسرائیل قصرگری را میگرد و در کچه های ایران امروز یک سرطه یک چند جنرال های اسرائیل و کمدیر را در کوچه ها چاپ کرده شد و گفته شده است که آنها را به سرگری میگرند. از یک سیستم هایی که ایران دارد میباشد راکت هایی که با روی سیستم جی پی ایس به هر دولت فرسانده میتوند و آنها از در همون ادرس رسده ضرر به رسانده میتوند. از این سبب در شمال مملکت همون و در مرکز مملکت همون این رو سیستم جی پی ایس باز کرده شد برای که راکت هایی که با سیستم های جی پی ایس کار میکنند باید ضرر خود را نرسانند. به خانه رفتنی عسکرهای حربی یعنی جنگواران که امروز به خانه شان رفتنی بودند برای آخر هفته از روی معلومات و فرمان وزارت مدافع اسرائیل رفتنی آنها به خانه منع کرده شد برای که حالا نامعلوم پگاه روز جمعه کدام جواب ایران میتید. آنان که رزرویس هستند امروز به خدمت ارمیه تکلیف کرده شدند که برای که اگر خدان کرده از ایران یا که ایران تشکیلات حزب‌الله را کار فرماید باید اسرائیل به این جنگ تیار باشد گفته معلوم گردید. از روی معلومات وزارت مدافع اگر خدان کرده جنگ سر شود ممکن که در 48% زیاد در مملکت همون الکتریکی کار فرمایده امکانیت نمی شود که آنها برای ایمان کردنی ضرری کلان اما الکتریکی را بس میکنند. از این سبب خوی بختر اسرائیل مراجعه کرده شده که آنها که امکانیت دارند با دیگر را به خود انرژی تیار کردن میتوانند با دیگر رفتارها این را تیار کردن. چی گذشته و امروز هم خوی بختری اسرائیل در جنین عملیاتی حربی گذراندن. از روی معلومات از در این عملیات بود گفت گفت کنی اکتیویست های تشکیلات حماس در جنین که اونها هم به حماسی در سکر غزه بوده دقل دارن. امروز 1281 روز جنگ شمشیرهای تیموری که قوه به خطر اسرائیل در اونجا جنگ رو در سکر غزه جنگ رو دوام داده استاده است برای آزاد کردنی همه به گروی گرفته شدن که آنها می باشند 132 نفر. چند دقیقه پیش بین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پریزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن برای تلفن هم صحبت شدند. از روی معلومات بایدن با جال و قرب با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت کرده گفت که باید جنگ به زودی بس کرده شود. آن می باشد بعدی که همسری پریزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از بایدن تب از چوش طلب کرد که باید بزودی جنگ در سکتر غزه بس کرده شود. هفت کارکنان تشکیلات یاردن رسانی WCK که نابود شدن در دنیا نارمی آوردنش میتاند. همچنین یوروسایوس معلوم کرد که باید یاردن رسانی به اسرائیل بس کرده شود که با یاروهایی که یوروسایوس به اسرائیل میرساند اسرائیل نخاق کار فرمایده سخنانی سکتر غزه را نخاق نبود میکند. من خدا خط روزی یک شمه باشمان با یک چند معلومات خود میرسانیم. شلوم میرو شنایم.
Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro Yael Bornstein. En technique avec moi, Léonide Isakov. Vous êtes sur CAN en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 4 avril 2024, 181 jours de guerre contre le Hamas. Alors qu'Israël se prépare à la riposte iranienne et que le chef du renseignement israélien affirme que le pire n'est pas forcément derrière nous, les Israéliens se ruent dans les supermarchés et vident les banques pour avoir de l'argent liquide. D'autres achètent des générateurs d'électricité. Waze est brouillé désormais dans le centre du pays et même à Jérusalem. Et donc non, vous n'êtes pas vraiment à Beyrouth, contrairement à ce que Waze vous aurait montré. Et dans tout cela, demain, c'est le dernier vendredi du Ramadan. On va essayer de faire le point avec le docteur Eric Seton, médecin héliporté de réserve, qui nous donnera son analyse. Il sera avec nous dans quelques instants. Puis dans le magazine, nous retrouverons la docteure Joëlle Zinger qui nous parlera de la corrélation entre le post-traumatisme et le diabète. Depuis le 7 octobre, de plus en plus de personnes contractent un diabète de ce genre à cause des événements que nous avons tous vécus. Mais avant cela, on va commencer par les nouvelles de ces dernières 24 heures. Le chef de la division du renseignement, le général Aaron Khaliva, s'est entretenu avec les chefs de terrain de la division de recherche et a déclaré, je cite, « Il n'est pas certain que le pire soit derrière nous. Nous attendons des jours très complexes. » Toujours dans le cadre des menaces de vengeance iranienne, après l'assassinat de Damas, le secrétariat du gouvernement a annoncé la tenue d'une réunion du cabinet politique et de sécurité au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Netanyahou y a déclaré que depuis des années, l'Iran travaille actuellement contre nous, directement et par l'intermédiaire de ses émissaires, et qu'Israël travaille donc contre les Iraniens et contre les proxys, à la fois défensivement et offensivement. Nous saurons comment nous protéger et nous agirons selon le principe simple selon lequel quiconque nous fera du mal ou envisage de nous faire du mal, eh bien, nous lui ferons nous-mêmes du mal. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Eric Seton. Bonsoir docteur.
Bonsoir Yaeli, bonsoir aux auditeurs.
Vous êtes le directeur médical du Medical Center d'Herzliya dans la vie civile, mais aussi et surtout lieutenant-colonel de réserve, médecin en chef de l'unité de sauvetage Chachef Techa. Merci d'avoir accepté d'être...
Ancien médecin-chef,
mais voilà, toujours en réserve. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation sur Cannes en français. Alors, docteur Seton, on n'a plus de GPS quasiment hein, dans tout le pays. On est en train de vider les supermarchés et le porte-parole de Tzal nous dit qu'il faut se calmer et que ça va aller. Alors, est-ce qu'Israël a raison de se préparer à une attaque iranienne et quelle est selon vous la porteur de cette attaque ?
Alors je crois que oui, après l'élimination du haut officier iranien, je crois qu'il est très important de savoir que oui, l'Iran va essayer de répondre. Maintenant, de quelle façon ils vont répondre ? Ils ont plusieurs possibilités. Je ne crois pas que Israël pense à une attaque directe de l'Iran directement sur Israël, ce qui serait un casus belli terrible et qui entraînerait des réponses non seulement d'Israël mais également des États-Unis et même probablement des Européens, parce que ce n'est pas quelque chose qui serait acceptable par les alliés d'Israël et également d'autres alliés comme par exemple les États du Golfe. Donc je ne crois pas que ce soit quelque chose qui puisse être une attaque directe de missiles iraniens qu'on verrait tomber sur Israël comme à l'époque de la guerre du Golfe. Par contre, l'Iran a plusieurs, donc on l'a vu, proxys comme le Hamas, bien sûr, qui subit encore des attaques, mais a encore des capacités de nuire. Le Hezbollah, bien sûr, qui a de nombreuses capacités, une importante capacité militaire. Les Houthis au Yémen et les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Donc tout ça, c'est une capacité. Et c'est une capacité de nuire qui est locale au niveau israélien. Mais ils ont également des capacités d'actes de terreur en Europe, et en Amérique du Sud. Et ils sont capables d'attaquer les communautés juives ou des propriétés israéliennes. Ou des représentations israéliennes.
On a appris que certaines ambassades avaient été évacuées hein, dans certains pays.
Voilà, donc les Iraniens ne renoncent pas et ils ne sont pas devant quel type d'acte de terreur ils peuvent commettre. Donc ils n'ont vraiment pas aucun problème d'essayer d'attaquer des représentations des sociétés israéliennes, des ressortissants israéliens et même des communautés juives. Donc il faut comprendre que l'Iran, pour l'instant, va répondre. Est-ce qu'il va répondre bientôt et maintenant, on ne sait pas. Mais,
seulement le dernier vendredi du Ramadan demain, mais en plus, c'est le jour de Jérusalem pour les Iraniens.
Alors, c'est l'avant-dernier vendredi, parce qu'après, il va y avoir Eid al-Fitr.
Pardon. Oui, c'est ça.
Oui. et donc, c'est le dernier vendredi, et c'est un vendredi, comme ils appellent, d'élévation, Layl al-Qadr. Mm-hmm. L'élévation où on doit être encore plus fort et encore plus imbibé de l'esprit du Ramadan. Et pour certains musulmans, c'est une occasion, pas pour tous bien sûr, mais pour certains musulmans, c'est une occasion de faire des dégâts, d'essayer d'attaquer Israël ou ceux qui ne sont pas de la religion musulmane, mais ça, c'est vraiment les extrémistes. Et je pense qu'on peut s'attendre, mais je ne suis pas sûr que ça soit probable maintenant. C'est-à-dire, il peut y avoir des actes terroristes en Cisjordanie, en Judée-Samarie, il peut y avoir même peut-être en Israël, s'ils veulent essayer de créer un acte de terreur beaucoup plus frappant. Mais je ne pense pas que les Iraniens vont se mettre maintenant à à tirer des missiles de façon inconsidérée directement d'Iran. Donc je crois que l'armée a bien raison de dire qu'il faut se calmer, premièrement. Le Nord est encore en potentiel d'escalade, mais Israël, qui a également un rôle dans cette escalade, ne veut pas, pour l'instant, créer l'escalade. On veut, une conflagration avec le Hezbollah doit être déclenchée, elle doit être faite au moment où Israël le désire et non pas se laisser entraîner dans l'engrenage que crée le Hezbollah.
Alors justement, je me suis demandé, on va partir du principe, même si Israël, comme à son habitude, hein, a une politique de non-déclaration, de non-prise de responsabilité. Mais si Israël est réellement derrière le bombardement du bâtiment adjacent à l'ambassade d'Iran en Syrie, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qui a pesé plus sur la balance? Il fallait que ces personnes disparaissent. C'était plus urgent au niveau sécuritaire pour Israël que de les laisser en vie. Donc je me dis, Israël savait très bien qu'il y aurait une riposte derrière. Pourquoi avoir fait ça maintenant, en sachant qu'Israël n'est donc pas prêt à un front supplémentaire, soit direct avec l'Iran, soit via ses proxys, et notamment le Hezbollah, auquel on s'attend tous?
Non, alors je n'ai pas dit que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes prêts à ouvrir un front...
Même au niveau des effectifs ?
Nous sommes prêts, tout à fait. Nous sommes prêts à ouvrir un front secondaire. Il n'y a pas de problème à ça directement. Maintenant, ce que nous voulons, c'est le déclencher lorsque nous sommes en position et diplomatique et militaire optimale. On ne veut pas maintenant, avec ce qui se passe dans l'opinion publique internationale, et avec également, effectivement, et même du point de vue militaire, c'est beaucoup plus important pour nous d'ouvrir ce front lorsque nous le voulons, premièrement. Il faut comprendre que le front, ce n'est pas des ripostes comme ça a été vu jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose qui peut être de beaucoup plus grande ampleur.
Et Israël, Alors,
parce que nous voulons le faire de façon... que l'initiative soit la nôtre, pas un moment où nous avons également d'autres occupations. Et c'est très important de créer, d'avoir l'initiative lorsqu'on effectue une opération militaire. Ça, c'est toujours beaucoup plus important que de répondre et de se laisser entraîner dans un engrenage. Maintenant, on savait très bien, je pense qu'il n'y avait aucune surprise à ce que l'Iran et le Hezbollah veuillent riposter après l'élimination. Mais il y a des cas où on prend cela en compte. Et je crois qu'ils étaient assez importants. Et cette élimination était assez importante pour que les représailles soient prises en compte. Il y a des cas où c'est l'élimination de quelqu'un qui crée des dégâts, qui nuit excessivement et qui est un poste important de relations entre le Hezbollah et l'Iran. Je crois qu'il fallait également qu'on prenne qu'il y a un moment où il ne peut plus être... ou s'il est vulnérable, il doit être éliminé.
Alors, docteur Seton, les logiciels de GPS, un peu tous, hein, que ce soit Waze ou Google Maps, nous localisent depuis quelques jours entre Beyrouth et Le Caire, et on n'arrive plus à les utiliser maintenant aujourd'hui, même dans la région presque plus, parce qu'il y a des moyens de les définir un petit peu différemment, en tout cas manuellement. Mais en quoi est-ce que ce brouillage est important pour la sécurité israélienne?
Pardon, excusez-moi.
Non, je demande en quoi le brouillage des logiciels, des applications telles que Waze ou Google Maps ou même Moovit pour ceux qui utilisent les transports en commun, pourquoi est-ce que c'est important et en quoi est-ce que c'est un outil comme
la je pense que les gens peuvent comprendre que lorsqu'il y a des GPS qui sont brouillés. Ça empêche de savoir exactement où certaines unités se trouvent, mais pas unité à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une utilisation technologique. Je veux pas m'étendre dessus parce que ça peut en fait dévoiler des choses, mais c'est important pour nous qu'il y ait des dérivations en fait de GPS et que ça oblige en fait les instruments que l'ennemi peut utiliser à être complètement faussés.
Oui. Ouais, ouais. Donc
maintenant, ça n'a pas commencé maintenant. C'est ça.
C'était dans le sud,
mois.
Dans le nord depuis le début.
Non, même moi, j'habite dans le centre. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé au Caire.
Ah oui, moi aussi.
Oui, non, tout le monde. On se retrouve un peu partout. Ouais. C'est vrai que c'était beaucoup plus utilisé dans le nord. Ouais. Maintenant, également entre. Bah, ça dépend un petit peu des directions. Des directions utilisées, mais je ne veux pas m'étendre un peu plus dessus.
Alors, vous parliez d'un soutien international, je voudrais vous faire réagir à la dernière déclaration qui vient de tomber du porte-parole du Conseil de la Sécurité Nationale, John Kirby, qui a déclaré il y a quelques instants « Nous souhaitons voir de réels changements du côté israélien, et si nous ne voyons pas de changements, Israël verra des changements de notre côté. » Kirby qui a noté que les États-Unis s'attendent entre autres à une augmentation spectaculaire de l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, à l'ouverture de davantage de points de passage et à une réduction de la violence contre les civils et les travailleurs humanitaires. Il a souligné « Nous voulons voir que les Israéliens sont prêts à prendre des mesures pratiques immédiates et nous examinerons et nous surveillerons de près la manière dont ils exécutent les engagements qu'ils ont reçus. Nous espérons voir des déclarations de changement dans les heures et dans les jours à venir. » Là, c'est vraiment très sévère comme réprimande. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration des États-Unis ?
Alors c'est d'abord la direction de John Kirby, des États-Unis, mais il faut également comprendre que c'est une déclaration qui vient également après un malheureux incident
terrible.
Qui n'aurait pas dû se prévoir, qui n'aurait pas dû être, et je pense qu'il doit il devait réagir, mais il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils se font, d'accord. Et ce qui se fait en ce moment sur le terrain. Du point de vue américain, c'est vraiment un soutien inébranlable. Que ce soit du point de vue logistique, que ce soit du point de vue approvisionnement, que ce soit du point de vue renseignement, énormément de...
On vous a perdu, docteur Seton ? On vous entend moins bien ?
Pardon.
Ah voilà.
Allô ?
Voilà, on vous entend mieux, oui, parfait. Oui.
Non, je disais que le soutien américain sur le terrain est totalement, est très fort, présent, inébranlable. Et je crois que bon, il y a ce que les politiciens disent. Il faut comprendre également que l'administration Biden est face à des élections bientôt.
Ouais.
Donc ils ont une base qui est plutôt à gauche, plutôt une base qui doit également comprendre que l'administration fait tout pour préserver les vies civiles. Et ce que fait vraiment Tsahal dans cette opération, on a vu une opération importante à l'hôpital Shifa sans qu'un cheveu de blessé ou de malade ou de personnel médical soit touché. Donc je crois qu'ils savent qu'on essaie de le faire. Après, c'est un malheureux incident de l'organisation des cuisines internationales. Il fallait qu'ils réagissent, mais sur le terrain, le soutien et l'aide américaine est vraiment très présente et très forte.
C'est ce qu'il faut espérer en tout cas. Merci beaucoup, docteur Eric Seton. On vous retrouve très prochainement sur les ondes de Cannes en français.
Merci beaucoup, Yaeli. Bonne soirée.
À vous aussi.
Merci.
On parlait donc de la cybersécurité nationale qui a étendu aujourd'hui ce brouillage de GPS dans tout le pays, notamment dans le centre, en prévision d'éventuelles attaques, de représailles menées par l'Iran après l'élimination toujours imputée à Israël de plusieurs responsables militaires de Téhéran. En Syrie, le brouillage déjà effectif, on en parlait depuis quasiment le début de la guerre dans le nord, a pour but de parasiter donc les drones et les missiles guidés par GPS qui sont envoyés sur Israël. Le brouillage qui n'est pas permanent et peut varier au cours de la journée et de la position géographique a été mis en place dès le début de la semaine dans la région d'Elat et dans la région de la Arava, le long de la frontière avec la Jordanie, entre la ville de la pointe du sud d'Israël et la mer Morte, et ce matin donc dans la région de Tel Aviv. Les applications de navigation telles que Waze, Moovit ou même Google Maps ne permettent donc plus de se géolocaliser avec la même efficacité, et l'utilisateur peut se voir détecté, comme on en parlait, à Beyrouth ou même au Caire. Des mesures qui interviennent après ces menaces lancées par le président iranien Ebrahim Raisi, qui a assuré mercredi, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, que l'attaque ne resterait pas sans réponse. Ce matin, le guide suprême iranien Ali Khamenei a lui aussi menacé Israël en publiant un tweet en hébreu. Je cite, « Avec l'aide de Dieu, nous amènerons les sionistes à se repentir de leur crime d'agression contre le consulat iranien à Damas. Cette année, le jour Quds, le jour de Jérusalem, sera un cri international contre le régime sioniste usurpateur », a-t-il écrit dans un autre tweet. Certains réservistes israéliens, notamment ceux de la défense aérienne, ont eux été rappelés en urgence depuis hier. Le porte-parole de Tzal, Daniel Hagari, a précisé dans un communiqué qu'il a publié ce soir que les forces de Tzal s'étaient bien déployées dans des formations défensives et offensives et sont préparées à une variété de scénarii. Nous ne devons pas faire preuve de complaisance, et en même temps, il est important de souligner qu'il n'y a pour l'heure aucun changement dans les directives du commandement du front intérieur. Hagari a noté que sa seule recommandation était la vigilance et la responsabilité de surveiller si changement il y avait. Nous avons une protection à plusieurs niveaux et nous avons des avions dans le ciel 24 heures sur 24, et ce depuis très longtemps. Le Shin Bet a contrecarré une infrastructure terroriste qui prévoyait de mener des attaques en Israël, notamment une attaque contre le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir. Ces derniers mois, le Shin Bet, l'armée israélienne et la police israélienne ont arrêté un grand nombre de suspects, surtout dans le sud et en Judée-Samarie. Entre autres choses, ils avaient l'intention de mener une attaque contre des bases de Tzal et des installations sécurisées, notamment l'aéroport de Ben-Gurion et le bâtiment du gouvernement à Jérusalem. Ils prévoyaient par ailleurs de mener une attaque à Kiryat Arba, et dans ce contexte, ils avaient même l'intention d'assassiner Itamar Ben-Gvir en se procurant un missile RPG. Ils avaient également prévu d'enlever des soldats supplémentaires de Tzal. Dans le même temps, il a été autorisé aujourd'hui à la publication que l'unité centrale de la police de Jérusalem et le Shin Bet avaient déjoué les attaques terroristes planifiées par deux terroristes soutenant l'État islamique. Ils souhaitaient préparer des engins explosifs et tirer sur un commissariat de police dans le quartier du stade de Teddy à Jérusalem. Les deux hommes se sont associés à un autre terroriste qui les a guidés et même convaincus de partir suivre une formation terroriste à l'étranger afin de pratiquer et de promouvoir des activités terroristes en Israël et aussi à l'étranger. Mais la police et le Shin Bet ont révélé leurs intentions et les ont arrêtés avant qu'ils n'aient pu mettre leur plan à exécution. Terroristes prévoyaient aussi de mener une attaque dans la zone du stade Teddy à Jérusalem avec l'intention d'y poser une bombe. Selon l'enquête, les personnes impliquées envisageaient d'introduire une bombe dans le stade avec l'aide d'un des détenus qui travaillait auparavant comme huissier sur le site et connaissait les sorties et les entrées du stade. Le plan était apparemment de blesser les supporters de l'équipe de Beitar Yerushalayim lorsqu'un but était marqué. Le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu aujourd'hui pendant environ 45 minutes avec le président américain Joe Biden, ce pour la première fois depuis le grave incident de Dire el-Balah au centre de la bande de Gaza, au cours duquel 7 travailleurs humanitaires de l'organisation humanitaire WCK ont été tués par le feu de Tzal. Dans sa déclaration de ce soir, le général Daniel Hagari a évoqué lui aussi cet incident accidentel et a déclaré que l'enquête sur cet incident grave a été présentée d'ores et déjà au chef d'état-major et qu'elle est maintenant présentée au ministre de la Défense et au Premier ministre. Hagari a souligné qu'il s'agissait d'une organisation dédiée qui était venue faire du bien et qui avait également donné de la nourriture aux citoyens israéliens. Après les événements du 7 octobre, nous allons enquêter sur cette question en profondeur et je pense qu'après avoir montré l'enquête aux ambassadeurs des pays concernés et aux membres de l'organisation elle-même, nous la montrons également au public de manière claire et transparente, ce qui permettra de ne jamais plus reproduire une telle erreur dans un avenir proche. On se quitte avec la météo pour demain et pour le reste du week-end. Il fera encore beau, il y aura une légère baisse des températures, mais il fera encore beaucoup plus chaud qu'à la norme saisonnière, surtout dans les hauteurs et à l'intérieur du pays. Tel Aviv et Haïfa, 28 degrés, Jérusalem 30, Tibériade 27, Tzfat 22, Ashdod 24, Beersheva 28 et Eilat 35 degrés demain. Il est 21h39 et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve demain pour le journal de 15h, le flash de 15h et à 21h pour la suite des informations. Au micro, c'était Yael Bornstein. En technique avec moi, c'était Léonide Isakov. Shabbat shalom aux uns. Bon week-end aux autres. On souhaite beaucoup de calme pour les prochains jours et on se quitte avec une pause musicale.
שקיעות יעבו עלינו כמה עוד ריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן כמה ציפורים ינדדו ברוח ואיך יכול להיות שגשם בחלון דופק מי אותך מחבק מי מחסה אותך בלילה שלא יהיה שלא יהיה לך קר ומכל בוקר מסדר לך ברוך את השיער מי מנגב לך את הדמעות כשאת בוכה כמה עוד שקיעות יעבו עלינו כמה עוד זריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן שדות האש הפכו ירוקים בינתיים עוד הם קלנית לא בין שקדיה והשומיים ענני תפילות נשואות אלייך כי איך יכול להיות שוב גשם בחלון דופק לי אותך מחבק מי מחסה אותך בלילה שלא יהיה שלא יהיה לך קר ומכל בוקר מסדר לך ברוך את השיער מי מנגב לך את הדמעות כשאת בוכה
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français. Dans le magazine de Cannes en français ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Joëlle Zinger. Bonsoir docteur.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Eh ben moi ça va très bien, on va parler d'un sujet important. Vous êtes endocrinologue spécialisé dans le diabète. Vous êtes au centre DMC qui traite le ou les diabètes, on va en parler. Et ce soir vous allez nous parler d'un sujet assez étonnant, les influences du post-traumatisme sur la glycémie, donc sur le diabète. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le diabète ou les diabètes ?
Alors, le diabète, comme définition, c'est d'avoir un sucre qui, ou une glycémie, un glucose qui est trop élevé dans le sang. On a tous besoin d'avoir du glucose comme énergie dans notre corps, mais quand il est trop élevé, au-dessus de 124, on a un diabète. Et le diabète peut avoir des causes qui sont très différentes. On peut avoir un diabète parce qu'on n'a pas assez de l'insuline, qui est l'hormone qui nous permet d'utiliser ce glucose et de le faire rentrer là où il doit être, dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau, etc., etc. Ou parfois, on a un diabète, qui est un diabète de type 2 dans ces cas-là, qui est lié au fait que cette insuline ne marche pas comme elle devrait le faire, et on a une, ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Il y a aussi d'autres diabètes qui sont liés ou à des causes génétiques ou à des maladies endocriniennes de tout type, qui peuvent être un excès de cortisol, un excès de catécholamine, etc., etc. Mais disons que les diabètes les plus fréquents sont les diabètes de type 1, où il y a un manque d'insuline, et les diabètes de type 2, où on a une résistance à cette hormone qui existe en ces moments-là dans notre corps, mais qui ne fait pas exactement le travail qu'elle devrait faire. Et la conséquence de tous les diabètes est qu'on a un taux trop élevé de glucose dans le sang.
Et ça, c'est en partie à cause d'une mauvaise fonction du pancréas.
Effectivement, mais le pancréas ne fonctionne pas normalement dans les diabètes de type 1 et dans les diabètes de type 2, mais le mauvais fonctionnement n'est pas le même. C'est-à-dire que dans le diabète de type 1, les cellules qui sont censées sécréter de l'insuline due à un processus en général auto-immun, je vais vous le définir ce que c'est l'auto-immunité dans une minute, il y a en fait une destruction des cellules qui peut être rapide ou lente, mais qui existe, et donc on n'a plus de production d'insuline.
D'accord.
Dans les diabètes de type 2, on a aussi un malfonctionnement du pancréas, mais pas seulement. On a un malfonctionnement du pancréas parce qu'on sait aujourd'hui que génétiquement parlant, il y a des gens qui vont sécréter moins d'insuline que d'autres. Donc il y a un problème génétique, mais souvent, ce qui crée ça, c'est qu'on a d'autres pathologies. Par exemple, on peut avoir de l'obésité, on peut avoir ne pas beaucoup bouger. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne bougent pas beaucoup et qui travaillent essentiellement assises. Les jeunes et les enfants voient beaucoup de télévision. Toutes ces choses-là sont des facteurs de risque pour créer cette résistance à l'insuline qui est la cause principale de diabète de type 2.
Et donc, quand on a un excès de glycémie, un excès de sucre qui n'est pas régulé par l'insuline, que l'on produit mal, il peut se passer quoi ? Quelles peuvent être les conséquences, les conséquences principales ou d'ailleurs les pires du diabète ?
Ok. Alors, les conséquences principales du diabète peuvent être ou aiguës ou chroniques. Donc, dans les conséquences aiguës, on a un taux très élevé de glucose dans le sang. On a tout d'un coup, on a très soif, on est très fatigué, on a besoin d'uriner très fréquemment. Chez les gens qui n'ont plus d'insuline, c'est quelque chose qu'il faut savoir déterminer rapidement parce qu'il faut leur donner de l'insuline assez rapidement. Mm-hmm. Dans les diabètes de type 2, c'est très rare, ou c'est plus rare, disons, ce n'est pas, ça existe parfois, mais c'est plus rare. On a aussi ces symptômes, mais disons que c'est pas la façon dont la maladie se présente. Ça, ce sont les problèmes aigus du diabète. Il y a des problèmes qui sont des problèmes chroniques. Notre corps n'aime pas avoir un taux trop élevé de glucose dans le sang. Et du coup, il y a une création d'inflammation qui fait des perturbations au niveau de différents organes. Alors, ça peut être les vaisseaux sanguins, Ça peut être le foie, ça peut être les reins, ça peut être les yeux, ça peut être le cerveau. Donc la raison de toutes ces complications est liée au fait qu'il y a une perturbation due à une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins et des grands vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux par exemple, du cœur ou les grands vaisseaux qui irriguent nos muscles, mais aussi des petits vaisseaux comme les vaisseaux qu'on a dans la rétine, dans les yeux, peuvent avoir une perturbation et ces perturbations nous donnent des complications et des maladies qui sont liées au diabète.
Ok, alors ça, donc maintenant qu'on a défini le diabète, on va essayer de se tourner vers le post-traumatisme. Qu'est-ce que c'est que le post-traumatisme et comment est-ce qu'aujourd'hui ça devient d'autant plus d'actualité?
Ok, alors le post-traumatisme est une maladie qui est liée au stress. Le stress est un processus que nous avons tous et qui est très utile si par exemple il y a un lion qui rentre dans votre cour. Donc c'est bien d'avoir du stress parce que à ce moment-là, on va pouvoir courir et se mettre à l'abri. Ça, c'est parfait. Mais parfois, le stress est chronique. Et c'est en fait la définition, le post-trauma, le stress est chronique. Et cette chronicité induit des complications. Et elle induit des complications qui peuvent être une élévation de la glycémie. Donc on parle du diabète. Il y a aussi d'autres conséquences comme une incidence plus grave, par exemple de dépression ou de troubles psychologiques. Donc le post-trauma a des complications qui sont métaboliques et d'autres, et elles sont liées au fait qu'on sécrète un peu plus de cortisol, mais pas de façon aiguë, de façon chronique, et qu'on n'est pas capable, après cette sécrétion aiguë, de revenir à un taux normal. Donc on a un taux qui est un tout petit peu trop élevé, et ceci peut nous causer un diabète.
Alors j'imagine qu'avec les événements, la guerre depuis le 7 octobre et le stress général dans lequel se trouve la population israélienne, ce sont des phénomènes que vous avez dû constater d'autant plus ces derniers mois.
Tout à fait. Alors dans ces derniers mois, le stress est très élevé et au niveau de la population générale et des enfants et au niveau évidemment des soldats. Et des gens qui sont dans le sud, dans le nord. Donc on a beaucoup de causes de stress. Le problème supplémentaire est que quand on est inquiet, on bouge moins, ce qui est encore une cause supplémentaire d'élévation de la glycémie. Et parfois, on mange plus. Donc en fait, il y a aussi des problèmes comportementaux qui sont liés à ce stress et à ce stress qui peut être post-traumatique. Et parfois, les gens ont une aggravation de leur glycémie. Alors aujourd'hui, on peut mesurer la glycémie de façon continue. On peut la mesurer avec, par exemple, le Freestyle Libre, qui est en fait un sensor, une sorte de sensor qui nous permet d'avoir toutes les minutes le taux de glucose et de voir s'il monte, s'il descend, etc. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui, on peut voir ça de façon beaucoup plus efficace qu'on le voyait chez les personnes qui ont déjà un diabète. Mais il y a aussi des gens qui n'avaient pas de diabète et qui tout d'un coup peuvent avoir un diabète ou un taux trop élevé, un pré-diabète de glucose dans le sang.
Et est-ce que vous avez constaté des gens qui sont venus vous parler? Parce que quand on est dans un état post-traumatique ou dans un état de stress quelconque, on se rend peut-être pas forcément compte que ça a engendré un pré-diabète ou un diabète. Comment est-ce qu'on peut savoir ça?
Alors, c'est évident qu'on s'en rend pas compte, mais ce dont les gens se rendent compte, c'est qu'ils ne se sentent pas bien. En fait, quand on est dans un post-trauma, on a plus de mal à communiquer, on est plus angoissé, on a moins envie de bouger. Et quand il arrive qu'il y ait une glycémie qui monte trop, on peut avoir justement tous les signes aigus dont je vous ai parlé tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire d'uriner plus, de boire plus, de vouloir manger. Donc ça, c'est une présentation aiguë. Mais les gens qui ont déjà un diabète, en général, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont reliés à ces types de sensors qui mesurent la glycémie, comme le Freestyle Libre. Et on peut voir l'augmentation de la glycémie. Et en fait, comme c'est une partie de l'éducation thérapeutique des patients, parfois ils viennent consulter parce qu'ils voient que c'est ce qui se passe. Il y a d'autres moyens de mesurer en fait la glycémie, mais ça, c'en est une qui est facile d'accès pour les patients.
Ouais, alors juste pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est que le freestyle libre, moi j'ai été confrontée récemment à une amie qui en a un. C'est une petite aiguille qu'on pose sur le bras et qui reste en place pendant 2 semaines, c'est bien ça? Et on met près de ce petit appareil, on approche donc un senseur qui va calculer immédiatement combien on a de glycémie dans le sang. Et donc il faut jamais dépasser 124, vous me dites.
Ok, alors aujourd'hui...
Ça, c'est pas le matin, Jean.
Alors, aujourd'hui, les définitions... Il y a une différence entre ce qui nous aide à faire un diagnostic de diabète et ce qui nous permet de faire un suivi du diabète. Donc aujourd'hui, quand on veut que quelqu'un soit bien équilibré, si ces personnes ont ce sensor, par exemple, freestyle libre, on a une notion qui s'appelle le temps dans le time in target, le temps dans le...
Ciblé.
Ouais, ciblé, mm-hmm. Le temps ciblé. Et on voudrait que le temps ciblé, c'est-à-dire que 70% du temps, la glycémie soit entre 70 et 180.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, les gens qui sont bien équilibrés, c'est quand ils ont au moins 70% du temps dans cette cible entre 70 et 180, et plus on augmente, disons, le pourcentage de temps qui est bien équilibré, moins on a de risques de complications du diabète, ce qui est en fait le but du traitement. Donc ces sensors nous aident aussi à vérifier ça au jour le jour et être plus près de ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres, par exemple, mesures comme l'hémoglobine et A1C, qui nous permet aussi de mesurer l'équilibre du diabète, mais mm-hmm. C'est quelque chose qu'on fait en général tous les 3 mois. Tandis que là, c'est quelque chose qu'on peut voir au jour le jour.
Et alors, j'en reviens à ma question initiale. Comment est-ce qu'une personne lambda, qui n'a jamais eu de problème de diabète, va découvrir qu'elle a développé un diabète ou un prédiabète en faisant le lien? C'est-à-dire que ça ne me serait jamais venu à l'idée de vérifier si j'ai du diabète, juste parce que, comme tout un chacun, j'ai eu une dose X, Y ou Z de stress en fonction de ce que j'ai fait ces derniers mois.
Ok, alors... D'abord, il faut quand même aussi être conscient que, bien qu'il y ait une certaine dose de stress, tout le monde n'est pas dans ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Okay, il y a une sorte de gradient.
Dans
ça, tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi remettre les choses un petit peu dans l'élément général et regarder ça en gros. Donc le syndrome post-traumatique, il peut être très important. En général, provoque aussi d'autres symptômes, une grande fatigue, une difficulté à dormir, d'autres symptômes, pas forcément les symptômes aigus du diabète, mais qui parfois poussent les gens à consulter. Ouais. Et dans ces moments-là, en fait, si le médecin généraliste demande en fait des examens simples, qui sont des examens sanguins, on peut faire le diagnostic de diabète assez facilement. Si c'est très aigu, en général, les gens vont consulter, mais même quand c'est chronique et juste il y a une fatigue, une insomnie, un manque de volonté de parler avec les gens, etc. Parfois aussi, les gens vont demander conseil à leur médecin traitant, ce qui est normal, je veux dire, parce que c'est pas un état qui est leur état habituel.
Donc j'imagine que depuis le 7 octobre et dans les semaines qui vont suivre encore, vous avez redoublé de ce genre de diagnostic.
Tout à fait. Par exemple, pendant la période du corona, où on a déjà plus de données, disons, de recherche qui a été faite là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des gens qui étaient moins bien équilibrés et aussi de nouveaux diabètes.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, docteur Joël Zinger, pour cette analyse et cet éclairage qui sont très importants. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voudrais rajouter le fait que, bien que nous soyons stressés, nous avons vraiment besoin de faire de l'exercice physique tous les jours. Je sais que c'est parfois très difficile quand on est angoissé, mais c'est une des façons qui permet de réduire le stress. Et donc, c'est mon conseil, en tout cas pour les gens qui ne sont pas diabétiques, évidemment, les gens qui sont diabétiques, on a besoin d'autres conseils, mais pour la population générale, c'est justement de ne pas regarder sans cesse les informations et de faire de façon régulière de l'exercice physique. Ça peut être de la marche, ça peut être bouger plus dans sa maison, ça peut être pour les gens qui aiment ça, faire du vélo ou autre chose, mais d'en faire très régulièrement, parce que c'est quelque chose qui permet de diminuer le stress.
Ça, de toute façon, le sport, c'est vraiment le consensus. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Merci beaucoup, docteur Joël Zinger, et à bientôt sur Canon Français.
Merci beaucoup et à bientôt.
אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.